Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ut inter mundanas varietates, ibi nostra fixa sunt corda, ubi vera sunt gaudia. Que parmi les vicissitudes du monde, là soient fixés nos cœurs où sont les vraies joies. Inter mundanas varietates, parmi les vicissitudes du monde. Chers frères de tout temps, des âmes généreuses ont cherché à se protéger des vicissitudes du monde. Certaines âmes appelées par Dieu ont rejoint les ordres religieux pour y mener une vie plus parfaite, loin des tentations d'une vie immergée dans le monde. Mais toutes les âmes ne sont pas appelées au renoncement effectif des trois vœux de religion. La pauvreté volontaire, ne rien posséder en propre, la chasteté parfaite et l'obéissance à un prélat tenant la place de Dieu. Cependant, au Moyen Âge, deux simples fidèles voulurent vivre de l'esprit de détachement du monde pratiqué dans les ordres religieux, surtout de ces ordres nouveaux que l'on appelait désormais sous le nom d'ordre mendiant, c'est-à-dire l'ordre franciscain et l'ordre dominicain, et qui brillaient par leur ferveur et leur sainteté. Ces fidèles, désireux d'une vie plus conforme aux promesses de leur baptême, s'agrégèrent à ces ordres et constituèrent ce que l'on appelle le tiers-ordre. Si nous voulons comprendre ce qu'est un tiers-ordre, avant de recourir au droit canon, qui nous donnera la pensée de l'Église à leur sujet, il nous faut d'abord étudier ce qui a présidé à leur formation historique. C'est important. La société du XIIIe siècle, si profondément chrétienne, est en effet marquée d'un signe caractéristique, inconnu à peu près jusqu'à elle, le piétisme laïque. Les causes de ce piétisme laïque n'ont rien d'honorable pour le clergé séculier. Beaucoup de ses membres à l'époque, surtout parmi les plus haut placés, ont perdu le zèle de leur état. Loin d'être des modèles de continence, de désintéressement, de pénitence, ils affichent avec une sorte de fatuité le dérèglement de leurs mœurs, leur âpreté à s'enrichir, leurs allures luxueuses. Les premières réactions contre ces scandales allèrent beaucoup trop loin et tournèrent à l'hérésie. Il y eut tout d'abord, les Vaudois. Ils s'éprirent de perfection chrétienne, mais leurs doctrines se pervertirent tout comme leurs mœurs. Ils oublièrent qu'en temps normal, des laïcs, même animés des plus saintes intentions, n'ont aucune mission apostolique en dehors de la hiérarchie de l'Église. Puis vinrent, vers la même époque, les pauvres de Lombardie, qu'on a aussi appelés les frères humiliés. Ils voulaient pratiquer la pénitence évangélique. Leur zèle alla plus loin aussi. Quoique laïcs, mariés même, ils aspirèrent à l'apostolat. Le pape Lucius III le leur interdit. Ils prêchèrent malgré le pape, malgré les évêques, et comme les Vaudois de pénitence sincère, ils devinrent des hérétiques. Saint François arrive à la même époque. Il est poussé, lui aussi, par l'esprit de pénitence avivé par les désordres des clercs et le relâchement des moines. Vêtu d'une tunique grossière, une corde autour des reins, les pieds nus, François parcourt les rues d'Assise, les vallées d'Ombry. Et quoique laïque au début, il prêche, et des disciples commencent à le suivre et à imiter son genre de vie. Mais on ne trouve ni chez François, ni chez ses disciples, aucune animosité contre la hiérarchie catholique, aucune marque de mésestime vis-à-vis du clergé. Bien au contraire. Il se soumet à son évêque et recommande souvent dans ses pieuses exhortations le respect des prêtres. C'est ce qui le différencie complètement des précurseurs de sa vie pénitente, vaudois et humiliés. En 1207, il fonde une vaste fraternité de pénitence, l'Ordo de Penitencia, l'ordre de la pénitence, comprenant des hommes, des femmes, des clercs, des laïcs, sans distinction d'état ou de situation. En 1210, il obtient d'Innocent III la confirmation officielle de leur genre de vie et la permission de prêcher la pénitence. « Frères, leur dit le pape, allez avec le Seigneur, prêcher la pénitence à tout le monde. » Saint Bonaventure écrit « Beaucoup de fidèles de l'un et l'autre sexe, engagés dans les liens du mariage, entraînés par la ferveur de la prédication de François, s'astreignaient à la forme de vie pénitente qu'il leur proposait. » De nombreux disciples. Ainsi, pendant de longues années, de 1207 à 1220, 13 ans, c'est long, l'œuvre de Saint François fut uniquement une œuvre de pénitence universelle. Les frères demeurent plus ou moins dispersés de par le monde. La règle ordonne d'ailleurs que chacun, après son admission dans la fraternité, demeure dans l'exercice de son état et dans son office. On reste là où l'on est. On continue à faire ce que l'on faisait, mais on fait pénitence. C'est ce qui explique son extraordinaire diffusion, pouvant faire pénitence chez soi, sans quitter son travail, ni ses obligations de famille, en s'astreignant seulement à certaines pratiques d'austérité, à un vêtement commun qui servait de signe extérieur de ralliement. On se livrait en masse aux saintes influences de François et de ses disciples. Cependant, les papes craignaient que ce mouvement ne dégénérât comme les mouvements de réforme qui l'avaient précédé. Aussi, Honorius III commença à organiser l'ordre de Saint François. Le cardinal Ugolin mit à la tête du mouvement des prêtres pour commencer. Ensuite, il réunit en monastère un certain nombre des pauvres dames avec Sainte Claire comme supérieure. C'est le début des Clarisses. Puis, quelques mois après, il groupe en couvent les frères qui aspirent à la prêtrise et ceux qui désirent vivre en religieux, sous une règle plus stricte, une règle religieuse, les vœux de religion. C'est un ordre religieux. C'est l'ordre franciscain qui commence. Une partie des frères de la pénitence se transforma en ordre religieux, tandis que l'autre partie demeurait dans le monde et allait se diviser selon les ordres religieux auxquels les uns et les autres allaient se rattacher. Une fois l'idée de vie religieuse à domicile chez soi répandue dans l'Église par Saint François, elle germa de tous côtés. Il y eut des pénitences de tout genre, la pénitence de la bienheureuse Marie-Madeleine, fondée à peu près simultanément en France et en Allemagne en 1225. Qui ne comptait que des femmes. La pénitence de Jésus-Christ ou les frères du Sac, fondée en 1245. La pénitence de Saint François, le vrai tiers ordre franciscain, plus restreint que l'Ordo de Penitencia, dont il devint une espèce. La pénitence de Saint Dominique, partie également similaire de l'Ordo de Penitencia. L'Ordo de Penitencia est un genre. Les ordos des penitencia de tel ou tel titre, de tel ou tel saint, sont des espèces. Il faut ajouter que pour le tiers ordre dominicain, il y a une deuxième source, la milice de Jésus-Christ, fondée par saint Dominique directement en personne, pour s'opposer aux hérétiques par les armes. Les statuts de cette milice, quant au spirituel, étaient semblables à ce que seront les constitutions du tiers-ordre dans leur forme dominicaine. Quand la lutte contre les hérétiques ne fut plus nécessaire par les armes, le tiers-ordre et la milice fusionnèrent. Il y a deux sources. Cet exposé historique de la création des tiers-ordres est important, car il nous donne l'esprit premier qui présida à la fondation de tous les tiers-ordres. Faire pénitence dans un monde corrompu. Faire pénitence. C'est le cri de Notre-Dame à Lourdes. Pénitence, pénitence, pénitence. Mais nous ne pouvons nous arrêter là, car au cours des siècles, les différents tiers-ordres modifièrent leurs règles primitives pour qu'elles correspondent à la spiritualité de chaque ordre religieux. La législation de l'Église a aussi suivi cette évolution, et nous trouvons dans le droit canon la pensée de l'Église sur les tiers-ordres. Le canon 702 nous dit ceci. Les tertiaires séculiers sont ceux qui, dans le siècle, sous la direction d'un ordre religieux, avec des vœux, et selon son esprit, s'efforce de tendre à la perfection chrétienne d'une manière conforme à la vie séculière et selon des règles apprivées pour eux par le siège apostolique. Pour bien comprendre l'utilité d'un tiers-ordre, il est nécessaire d'en voir la finalité, le but, qui est de mener une vie plus parfaite pour atteindre le but qui nous est donné à chacun d'entre nous, aimer Dieu de tout notre cœur et aller au ciel. Par le tiers-ordre, on vit une vie plus parfaite qui nous aidera à aller plus vite au ciel et à aimer Dieu véritablement, plus parfaitement. Maintenant, si nous reprenons la définition donnée plus haut, nous y voyons que les tiers-ordres ont ceci de commun que tous, composés de séculiers, recherchent la perfection chrétienne. Ils se distinguent, au contraire, par l'ordre religieux. On est tertiaire de tel ordre religieux et non pas de tel autre. Il faut bien comprendre cette distinction. S'il y a des observances générales qui s'appliquent à tous indistinctement, il y a aussi des méthodes particulières pour atteindre la fin commune à chacun d'entre nous, la béatitude éternelle. Toutes ces méthodes, dès lors qu'elles ont reçu l'approbation de l'Église, sont laissées à notre libre choix, selon nos inclinations et selon ce à quoi la grâce de Dieu nous porte. Chaque famille religieuse, nous dit le père Garrigou Lagrange, a bien sa spiritualité à elle. Saint Benoît consacre particulièrement ses fils à la célébration de l'office divin. C'est l'ordre patriarcal de la louange et de la paix. Le Carmel et la Chartreuse rappellent la solitude et l'austérité chères à la vie érémitique et doivent maintenir très haut dans l'Église l'esprit d'oraison. Les enfants de Saint François trouvent dans la pauvreté de leur père le secret des élans d'amour tout séraphiques qu'on ne cessera jamais d'admirer dans l'humble frère d'Assise. Aux âmes qui ont surtout soif de vérité, Dieu propose comme guide Saint Dominique et les grandes lumières de son ordre. La valeur des tiers-ordres apparaît mieux encore si l'on considère l'état particulier où leur profession place les tertiaires. Si les tertiaires séculiers ne font pas les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et donc ne sont pas des religieux, cependant, par leur profession, ils appartiennent à un ordre religieux et deviennent participants de cet ordre. C'est-à-dire qu'ils ont une part effective, réelle, à la vie religieuse de l'ordre dont ils font partie. Cette opinion est confirmée par l'autorité du pape Benoît XV. Ainsi, écrit-il, le projet qu'aucun fondateur d'ordre régulier n'a jamais imaginé, faire pratiquer par tous la vie religieuse, François en eut le premier l'idée, et la grâce de Dieu lui donna de la réaliser avec le plus grand succès. S'il ne fait pas de vœux, le tertiaire fait une profession qui se rattache à la vertu de religion, vertu qui a la prééminence sur toutes les autres vertus morales. La vertu de religion est juste en dessous des vertus théologales. La profession est un acte de religion parce qu'elle est un sacrifice. Le fait même de vouloir contracter avec Dieu une union spirituelle, nous dit saint Thomas, se rattache à l'honneur qu'on lui doit. Ainsi, tout acte vertueux prend raison de sacrifice, du fait qu'on l'accomplit, pour entrer en la sainte société de Dieu. C'est bien le cas du tertiaire, qui par sa profession fait un grand pas pour pénétrer davantage dans la société de Dieu. Il devient un homme religieux. Et saint Thomas affirme encore ceci, un homme religieux qui repasse, pour ainsi dire, qui relie ce qui concerne le culte divin. La profession est également accompagnée d'une cérémonie liturgique qui en accentue le caractère religieux. Le tertiaire reçoit un habit béni et des bénédictions. Ce sont des sacramentaux qui produisent des grâces bien réelles. Cette bénédiction donne aussi un caractère officiel et authentique à la profession du tertiaire. Celui-ci devient publiquement membre d'un ordre religieux, membre d'une famille, le frère de saints nombreux au ciel. De plus, cette bénédiction consacre l'engagement pris par le tertiaire à vivre selon une règle, la règle du tiers-ordre. Secours précieux pour pratiquer la vertu et faire pénitence. Pénitence. Toutes ces considérations nous font comprendre la grande valeur des tiers-ordres religieux et pourquoi l'Église les recommande et les tient en si haute estime, à tel point qu'elle les place au-dessus de toutes les confréries et de toutes les pieuses unions. Rien n'est au-dessus d'un tiers-ordre pour les associations de fidèles. On ne peut pas faire mieux. En résumé, l'état des tertiaires n'est pas l'état religieux. C'est celui d'une participation constante à la vie religieuse d'un ordre. Les tertiaires ne sont pas des religieux diminués ou de dernière zone. Ce sont des laïcs ou des clercs plus parfaits, qui dans le siècle sont des fidèles plus éminents, recevant des grâces spéciales et devant donner l'exemple constant d'une vie surnaturelle plus complète et plus intense. Concluons en donnant la parole au bienheureux Humbert de Roman, cinquième maître général de l'ordre des frères prêcheurs. Il a écrit un modèle de sermon pour les frères de la pénitence, quelque nom qu'il porte, pour l'ordo des penitentia en général. Dieu, dit-il, ne veut pas la mort du pécheur. Il lui donne le lieu et le temps de la pénitence. Il y en a qui prétendent ne pouvoir faire pénitence dans le monde et qui ne veulent pas entrer dans le cloître, soit parce qu'ils en redoutent les rigueurs, soit parce qu'ils sont mariés. La Providence est venue à leur secours et leur enlève toute excuse. Elle a en effet établi au milieu du monde un certain moyen de faire pénitence qui est approuvé par le Saint-Siège et qui est enrichi par lui de grâce et d'indulgence. C'est ce moyen que pratiquent ceux que nous appelons les frères de la pénitence. Quoique mariés, quoique vivant en plein monde pervers, ils évitent le péché, ils fuient les situations qui sont cause de péché. Il porte en signe extérieur de pénitence un vêtement humble. Il pratique certaines observances conformes à leur état de pénitent. Et il ajoutait, beaucoup d'hommes et de femmes, même du plus haut rang, surtout en Italie, ont embrassé ce genre de vie. Beaucoup, beaucoup. Que ceux donc qui se sentent poussés par la grâce à mener une vie plus pénitente n'hésite pas à venir frapper à la porte d'un tiers-ordre, celui vers lequel leur cœur et surtout la grâce de Dieu les y portent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Ainsi soit-il.